Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Ludovic Auger.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme tous les vendredis, notre semaine s'achève par un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui touche à la fois à la transition énergétique et à la justice sociale, la mobilité. D'un côté, le trafic routier est responsable de près de 30% des émissions de COD en France. De l'autre, la crise des gilets jaunes, déclenchée par la hausse des prix du carburant, a révélé l'ampleur des fractures sociales et territoriales dans notre pays. C'est à ces nombreux défis que cherche à répondre le projet de loi d'orientation des mobilités, actuellement en débat à l'Assemblée. L'objectif, sortir du tout voiture tout en luttant contre les inégalités en matière de déplacement. Le gouvernement prévoit entre autres de créer une prime mobilité durable pour soutenir le vélo et le covoiturage. Alors qui seront les vrais bénéficiaires de la loi mobilité ? Ce projet de loi répond-il vraiment à l'urgence climatique ? Et plus largement, comment modifier les comportements en matière de déplacement ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. Aux alentours de 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Yannick Pérez nous fera découvrir les institutions, les changements institutionnels et l'efficacité économique de l'économiste Douglas North. Et pour parler des grands défis de la mobilité, trois invités autour de la table. Bonjour Frédéric Errand.
Bonjour.
Vous êtes économiste, urbaniste et maître de conférence à l'Université de Lille. Pour discuter avec vous, Imen Mirawi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du réseau risque et impact industriel pour l'association France Nature Environnement. Et enfin, Jacques Defy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du programme Mobilité 3.0 à l'association ATEC ITS France et ancien responsable adjoint du service Mobilité Urbaine à la métropole de Lyon. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Il y a effectivement une injustice qui est que quand vous êtes dans une grande ville, vous avez des transports en commun et votre employeur vous rembourse 50% d'abonnement. Quand vous êtes dans un territoire moins dense, une petite ville, une ville moyenne, non seulement vous n'avez pas de transport en commun, mais en plus votre employeur ne vous aide pas. Dans la loi mobilité, il est prévu la mise en place d'un forfait mobilité jusqu'à 400 € sans charge sociale et fiscale que pourra vous donner votre employeur. Aujourd'hui, c'est facultatif. On a engagé des discussions avec les employeurs pour que ce soit plus systématique,
voire obligatoire.
Mais il faut aussi qu'on propose d'autres solutions que la voiture. Et c'est tout le sens des investissements qu'on va faire pour remettre en état les lignes de chemin de fer. Parce que c'est pas normal quand vous habitez à Chartres que vous renonciez à prendre le train. J'ai entendu une maire qui dit, moi je vois bien qu'on met 2 heures maintenant pour aller en TGV à Paris, mais nous on est à 40 km de Bordeaux et on met quasiment le même temps pour y aller en voiture.
Voilà, on entendait la ministre des Transports Elisabeth Borne sur RMC, c'était le 18 mars 2019. Alors avant d'en venir aux mesures proposées dans ce projet de loi, il faut peut-être commencer par faire ce constat, Frédéric Errand. Aujourd'hui les 3/4 des Français prennent leur voiture pour aller au travail. On peut dire que la part de la voiture dans les déplacements est restée quasi inchangée depuis 20 ans.
Oui, c'est évidemment très difficile de faire bouger cette part, mais il faut comprendre d'où elle vient. On a créé en fait une dépendance automobile en favorisant sans cesse sa vitesse et en conséquence la portée des déplacements. Et on a aménagé le territoire uniquement en fonction de la voiture. Et comme un boomerang, aujourd'hui, on a une réaction en retour qui est qu'on ne peut plus rien faire autrement qu'en voiture. Ça s'appelle la dépendance automobile.
Et alors, selon l'INSEE, 58% des actifs qui travaillent à moins d'un kilomètre de leur lieu de résidence, ils vont en voiture. Jean-Claude Defy, ce qu'on voit, c'est que même les plus petits trajets sont faits en voiture.
Alors, selon l'INSEE, c'est à partir de la commune de résidence. Donc c'est pas le kilomètre. Je pense que ce chiffre est à relativiser, ce n'est pas du tout ce que dit l'INSEE.
Qu'est-ce que ça signifie ?
La commune ne fait pas un kilomètre de rayon, si vous voulez. Elle peut faire beaucoup plus. Voilà. Donc les gens, il n'y a pas 58% des gens qui font un kilomètre en voiture pour aller travailler. Ça, c'est pas vrai. Non, Ce que dit Frédéric Héran est tout à fait juste. Donc la part modale de la voiture, c'est 80% en voyageurs kilomètres et c'est la même depuis 20 ans. Donc malgré tous les investissements qui ont été mis en place sur les tramways, etc., ces choses-là n'ont pas bougé globalement en France. Hein, on se rappelle du Grenelle de l'environnement où quand même des investissements colossaux ont été faits. Et ce que dit la ministre Elisabeth Borne est tout à fait juste, c'est qu'en fait, on a, entre guillemets, fait le travail dans la plupart des grandes villes où on sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut mettre des alternatives. Okay. Donc, de transport en commun, de vélo, des choses qui occupent moins d'espace public, qui polluent moins. Et par exemple, vous prenez la métropole de Lyon, la part modale de la voiture, elle a baissé de 10 points. Donc, la part modale, c'est le nombre de déplacements effectués. Donc, le nombre de déplacements en voiture par rapport au total des déplacements a baissé 10 points sur Lyon en 10 ans. Le diagnostic qui a été fait, alors des assises de la mobilité, donc cette espèce de grand débat sur la mobilité qui a été engagé il y a 2 ans par la ministre des Transports, bravo à elle, c'était une démarche inédite hein, en 30 ans, a vraiment montré que par contre, pour tout ce qui était les zones au-delà des périphériques, donc première et seconde périphérie, je vais aller un peu plus vite, on a effectivement pas ou peu d'alternatives. Je tempérais juste le diagnostic qui est fait par Monsieur Héran. Effectivement, dans les années 70, on a construit un certain nombre de ce qu'on appelle des pénétrantes, des voies rapides qui vous permettent d'accéder à la ville de manière plus rapide en voiture essentiellement. Ce temps gagné n'a pas été utilisé pour s'occuper de nos enfants ou lire un peu plus, il a juste été utilisé pour habiter plus loin que notre lieu de travail.
Et pour pouvoir éventuellement agrandir son logement avec la montée des prix de l'immobilier.
Je termine juste là-dessus. Je pense que c'est important quand même. Depuis la crise de 2008 et bien avant, on a un phénomène de concentration des emplois dans les agglomérations qui fait qu'aujourd'hui, les prix de l'immobilier a été multiplié par 3 dans les grandes agglomérations en 20 ans. Beaucoup d'emplois ont été détruits. Et donc, on a des gens qui sont vraiment dans une situation où ils n'ont vraiment pas le choix.
Imen Mirawi, sur ce premier diagnostic que l'on peut poser sur effectivement cette présence encore très importante de la voiture dans les trajets domicile-travail.
Oui, sur le kilomètre, je ne sais pas, mais 40% des trajets aujourd'hui en voiture font moins de 3 km pour les trajets domicile-travail. Et c'est vrai qu'on a encore cette habitude de prendre systématiquement la voiture parce que ce qui intéresse les gens, c'est effectivement le trajet porte à porte. Alors effectivement, on n'a pas toujours le bus devant chez soi, l'aire de covoiturage à moins de 500 mètres, mais je pense que vu l'urgence climatique dans laquelle on vit aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir consentir à marcher 10 minutes. En plus, c'est de l'exercice physique et je crois que pour le coup, l'OMS préconise de marcher une demi-heure par jour. Donc, on peut qu'encourager les dispositifs qui existent dans cette loi, justement sur la prise en charge par les employeurs, notamment du vélo, du covoiturage. Nous, ce qu'on regrette, c'est que ça reste facultatif et que malheureusement, en France, tant qu'on reste sur l'incitation et du facultatif, les résultats ne sont pas toujours là très vite.
Alors, justement, parlons effectivement de cette prime à la mobilité de 400 euros qui serait financée par les entreprises et qui vise à inciter les usagers à se tourner vers le vélo ou le covoiturage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette proposition, Frédéric Héran, et nous dire ce que vous en pensez?
Oui, c'est a priori une bonne idée, mais c'est un peu plus compliqué que cela. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre que dès qu'on prend une mesure dans le domaine de la mobilité, il y a facilement des effets pervers ou des effets rebonds, on dit aussi. Et je vais en donner un exemple. Si vous favorisez le covoiturage, eh bien, vous allez rendre plus fluide la circulation automobile et de fait favoriser alors l'usage de la voiture. Vous voyez, on arrive à des quantités de paradoxes comme cela. Donc, toute la difficulté, c'est d'avoir une politique cohérente sur tous les plans. Et on fait toujours des mesures sectorielles et on ne réfléchit pas assez à la cohérence de la politique.
En l'occurrence, c'est une mesure qui va être mise en place au moins pour les fonctionnaires. Effectivement, la question c'est est-ce que cette mesure sera obligatoire et aussi est-ce qu'il faut faire reposer le financement de cette prime sur les entreprises, Jean Coldefy?
Alors moi je vais rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Héran qui me paraît tout à fait juste. Si vous voulez, il faut pas agir sur un seul axe qui serait le financement, il faut agir sur plusieurs axes à la fois. Donc je le répète, on a plusieurs type de mobilité adressée. Il y a des déplacements courte distance, donc là, dans les centres urbains, la marche à pied, le vélo sont des choses que l'on peut effectivement pratiquer. Après, tout n'est pas reportable de la voiture, hein, quand vous avez ce qu'on appelle des boucles de déplacement, vous posez vos enfants, etc., vous allez faire vos courses, etc. Donc là, parfois le vélo, ça peut être un peu compliqué, mais en tout cas, un certain nombre, c'est sûr, peut être reporté sur des modes actifs, et c'est très bien pour la pollution, très bien pour la santé des personnes, et très bien pour l'espace public, parce qu'on l'oublie, le vrai problème de la voiture, c'est son occupation de l'espace public. Il faut agir sur 4 axes, il faut agir sur 4 axes pour les déplacements longue distance. Et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui le vrai sujet. Vous prenez Paris, alors, On est dans un pays très centralisé, très centralisateur. Les journalistes habitent Paris, la ministre évidemment habite Paris. Et on a l'impression que tout se joue en province comme à Paris. Paris a le réseau de transport en commun le plus dense du monde. Personne, aucune agglomération en France n'a cette alternative-là. La part modale, intramuros, je dis bien la commune de Paris, effectivement. La part modale, donc le nombre de déplacements réalisés par les actifs à Paris, c'est de 20%. C'est 50 à 60% dans la plupart des temps ailleurs en France, sauf peut-être à Lyon qui a réussi aussi à beaucoup baisser. Donc il faut agir sur quatre axes pour ces déplacements longue distance. Le premier point, il faut des transports en commun, beaucoup plus, en masse, donc des trains, des TER et des cars express. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'on mette en concurrence la SNCF. Je suis désolé de le dire, les régions n'ont que trop tardé. La SNCF fait porter un poids considérable aux finances publiques qui gêne le développement de l'offre.
On va détailler toutes ces mesures au fur et à mesure, Jean Coldefy. Il va falloir y aller étape par étape. Je voudrais faire réagir Imen Merawi d'abord sur cette prime à la mobilité, en effet, et sur la nécessité peut-être de la rendre obligatoire, puisqu'on peut imaginer que dans les négociations en entreprise, ce sera assez compliqué de convaincre les entreprises de mettre en place cette prime.
Ouais, on le voit déjà, par exemple, ce qui a été mis en place, ou en tout cas... pour inciter les entreprises à réfléchir justement à la mobilité à la fois de leurs salariés, mais même à l'échelle des transports pour leurs fournisseurs, etc. Il y a les plans de mobilité entreprise. Aujourd'hui, très très peu d'entreprises se sont saisies de cet outil. Nous, on estime que, vu les résultats, le passage obligé à la contrainte doit se faire. Peut-être que dans notre pays, on n'a pas besoin d'aller vers la contrainte. On disait que justement, ce forfait mobilité a continué à engager les gens sur la voiture, même si c'était du covoiturage. C'est vrai, l'idée, nous, de France Nature Environnement, c'est pas de dire « interdit la voiture ». Ça peut paraître curieux pour une association de protection de l'environnement, mais on estime que la voiture a son domaine de pertinence. Effectivement, aujourd'hui, dans les territoires ruraux, les gens n'ont pas le choix. Les transports en commun n'existent pas, ou très peu. Moi, je suis originaire de Lozère, je peux vous dire que les fréquences en transport, faut s'accrocher. Par contre, il y a un enjeu dans les grandes villes, en région parisienne, c'est la lutte contre l'autosolisme. Moi, je suis en région parisienne de
l'autosolisme.
Oui, c'est une personne dans une voiture, et on voit de plus en plus d'SUV le matin, une personne par véhicule pour aller parfois, justement, dans des lieux approximativement dans la même zonage géographique.
Et ce qui fait que les Deux-France gardent le record d'Europe de bouchons avec 400 km censés quotidiennement.
Non, ce qui fait que l'Île-de-France garde le record d'Europe de bouchons, c'est parce que vous allez en grande couronne ou en deuxième couronne ou en première couronne, vous avez très peu d'offres alternatives à la voiture qui permettent de répondre aux besoins de déplacement. Donc j'insiste là-dessus, c'est vraiment urgent de construire ces alternatives. C'est-à-dire qu'on ne résoudra pas les problèmes du périphérique parisien si on ne s'attaque pas à ça. 80% des utilisateurs du périphérique parisien ne sont pas des Parisiens. Voilà, parce qu'évidemment, les Parisiens ne sont pas plus intelligents ou moins bêtes que les autres, si vous voulez. Quand vous avez l'alternative, qu'elle marche, vous la prenez. Voilà. Ailleurs, il n'y a pas l'alternative, les gens ne la prennent pas. Donc, il faut la construire. Donc, j'en viens à cette question ça rejoint les débats sur la gratuité des transports. On s'imagine.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que justement cette gratuité pourrait permettre aux gens d'abandonner un peu plus leur véhicule?
Mais parce qu'on confond tout. On dit que c'est des problèmes de comportement. Quand vous n'avez pas d'alternative, on peut vous mettre les transports gratuits. Quand il n'y en a pas, vous ne les prendrez pas, évidemment. On peut vous mettre 300 € ou 400 € par an. Vous prendrez toujours votre voiture.
Là, il faut différencier, en l'occurrence, l'Île-de-France et les différentes villes.
Non, mais même,
villes.
Vous avez la même chose dans les grandes périphéries de la plupart des grandes agglos. Le diagnostic qui est fait, vous pouvez le faire sur les 20 ou 30 plus grosses agglomérations françaises, c'est le même. Il n'y a pas d'alternative à la voiture pour les grandes périphéries. Et c'est cela qui sature les transports, les routes dans les villes.
Frédéric Errand.
Oui, je vais donner quelques repères encore. En fait, il faut savoir que la moitié des déplacements sont inférieurs à 3 km. C'est considérable. Et les deux tiers, presque les deux tiers, inférieurs à 5 km. Et en périphérie, en grande périphérie même, on n'est pas si éloigné de ces chiffres. C'est-à-dire, il n'y a pas une grosse différence entre les déplacements urbains et périphériques.
Et donc sur cette question de la gratuité des transports.
Attendez, avant j'aimerais dire combien on peut construire des alternatives et donner des exemples. Si vous prenez des petites villes en grande périphérie ou même des villages, très souvent les enfants ne peuvent même pas aller à l'école à pied. Pourquoi ? Parce que il y a un laxisme complet sur le stationnement automobile. Le long des rues qui ont souvent des trottoirs défoncés ou pas du tout de trottoir. Et donc les enfants eux-mêmes ne peuvent même pas marcher sur le trottoir. Donc on a aujourd'hui une revendication qui monte dans les territoires ruraux ou périphériques qu'il puisse y avoir des trottoirs pour que les parents ne soient plus dépendants de la voiture pour les amener à l'école. Mmh. Et donc et on pourrait comme ça prendre quantité d'exemples. Le vélo, ça peut être aussi une alternative dans ces territoires, mais il faut construire cela. Il y a des régions qui le font. Par exemple, en Alsace, il y a plein de chemins ruraux qui sont interdits à la voiture, sont goudronnés, interdits aux voitures, et bien sûr autorisés aux engins agricoles et aux cyclistes. C'est goudronné, vous voyez, c'est une espèce de piste cyclable de chemin rural.
On va parler du plan vélo, effectivement c'est un aspect essentiel, mais un mot, je me permets d'insister sur cette gratuité des transports. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites en ce moment dans un certain nombre de villes. Je voudrais avoir votre avis là-dessus.
Ça le vend... C'est effectivement très tendance aujourd'hui, mais ça a des effets pervers, une fois de plus. Alors, quand on regarde concrètement comment ça permet de réduire ou pas les autres modes de déplacement, alors, en fait, la part modale de la voiture se réduit grâce à la gratuité de seulement 1 à 2%. Exactement. Donc c'est rien, c'est infime, quoi. Malheureusement, la marche est plus attaquée par la gratuité des transports publics et plus encore le vélo. Mmh. Et en fait, il y a une cohérence là-dedans. Ce sont des publics tout à fait semblables. Hein. Les cyclistes, les usagers des transports publics, c'est des publics assez proches. Et c'est donc normal que quand on rend gratuit les transports publics, ce soit surtout des cyclistes qui les utilisent.
Imane Mirawi.
Nous, sur la gratuité, c'est vrai qu'on n'y est pas forcément très favorable, justement, parce que pour certains trajets très courts, on aurait tendance à facilement prendre le bus plutôt que de marcher ou prendre le vélo. Et deuxième chose, la gratuité, elle n'existe jamais vraiment. Enfin, la gratuité, c'est un coût, c'est nos impôts, donc on paye indirectement. Et on préférerait justement que la question de la tarification sociale se fasse de manière plus systématique, notamment pour les accès d'abonnement en transport en commun, d'abonnement à la SNCF, qui reste quand même assez cher pour des publics fragiles, voilà, éloignés de l'emploi ou au niveau du SMIC. Et justement, je pense que la crise sociale dans laquelle on vit aujourd'hui démontre que justement, on n'a pas forcément besoin de gratuité, mais on a besoin de plus de progressivité dans les tarifs. Mmh. Et ça devrait être une piste qui devrait être étudiée par le gouvernement et qui manque aujourd'hui dans la réflexion sur la LOM.
Jean Coldefy.
Ouais, là-dessus, je pense que dans ce pays, on s'en remet toujours à l'État. Ce sont les autorités organisatrices de mobilité qui ont la main sur la tarification des transports. Il y en a beaucoup qui introduisent la tarification solidaire, mais Frédéric Aron a tout à fait raison. La gratuité n'apportera rien dans le domaine de la réduction de l'usage de l'automobile. Par contre, elle mettra à mal le financement des transports en commun. Et comme je le dis, on a besoin de plus de transports en commun depuis les périphéries. Il faut massifier des flux. Il faut avoir des... Voilà. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple très pratique. Bourgoin-Jallieu, communauté de communes à l'est de Lyon, 100 000 habitants. Vous avez deux trains par heure pour aller au plus gros pôle d'emploi de l'agglomération, qui est la gare de la Part-Dieu. Deux trains par heure, c'est 700 personnes. Voilà. Mmh. Il y a 50 000 personnes qui rentrent chaque jour sur l'autoroute. Concurrente, 50 000 véhicules. Mmh. Voilà. Parce qu'une voie d'autoroute, c'est 2 000 personnes par voie. Donc vous avez 3 voies, 6 000 personnes par heure. Face à 700.
Alors, ce n'est pas le cas pour tous les trajets, mais il y a un certain nombre de trajets qui peuvent tout de même se faire en vélo. Et c'est pour ça que le gouvernement a lancé ce plan vélo qui a été adopté l'an dernier et qui prévoit un budget de 50 millions d'euros par an afin de tripler la part du vélo dans les trajets quotidiens d'ici à 2024. Il y a beaucoup de voix qui se sont élevées, Frédéric Aron, pour dire que 50 millions par an, c'est très peu. Il en faudrait 200 millions en général.
Oui, c'est certainement, il en faut sûrement plus, mais c'est une première. Il faut savoir que c'est le premier plan vélo financé en France. Donc il faut reconnaître à ce gouvernement le fait d'avoir enfin, introduit ce type de mesure. Bien sûr, on espère ensuite que tout l'argent sera dépensé. Hein, ça veut dire aussi que les communes doivent répondre. Or, il semble que la réponse soit vraiment là. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mmh. Et à quoi servira surtout ces sous? Les gens se rendent peut-être pas bien compte, mais à traiter essentiellement ce qu'on appelle les coupures. Les coupures. C'est-à-dire, par exemple, une autoroute sans franchissement possible. qui vous oblige à faire de grands détours, eh bien voilà, une passerelle sera peut-être construite au-dessus de cette autoroute.
Ce sera la majorité du budget.
Oui, ça va essentiellement être utilisé au traitement des coupures urbaines. Et il est temps, parce que le problème est gravissime. En France, vous avez beaucoup de villes qui sont véritablement hachées par des grandes infrastructures de transport, ou ça peut être des voies ferrées, des autoroutes, des voies rapides, mais aussi des coupures naturelles comme des rivières.
C'est ce qui explique le retard français par rapport à d'autres pays européens, Frédéric Errand, même si la part du vélo, vous le disiez, a connu un essor important au cours des dernières années.
Bon, pour comprendre ce terme de retard, mais de décalage, pourquoi on est décalé par rapport à d'autres pays, il faut remonter très loin là, pour le comprendre, mais en gros, on avait autant d'usage du vélo en France qu'en Allemagne dans les années 30. Même encore en 1950, on avait autant de cyclistes en France qu'aux Pays-Bas aujourd'hui. Ça laisse rêveur. Hein. Et en fait, nous avons connu un effondrement de l'usage lié à l'essor du deux-roues motorisé, qu'on a laissé complètement se développer à coups de dizaines de milliers de morts. Il faut savoir que le fait d'avoir laissé des petits jeunes de 14 ans seulement, 16 ans souvent dans les autres pays, rouler sans casque sur des deux roues débridées à 80 à l'heure, ça tue, quoi.
Et ça correspond au moment où le vélo a reculé. Vous vouliez réagir, Jean Coldefy ?
Non. Oui, je pense que pour la première fois, donc effectivement, ce gouvernement, Madame Borne, lors de la conclusion des assises, a vraiment pris conscience que le vélo était une piste intéressante. Et une fois de plus, je le dis, dans les centres urbains, de grandes villes ou pas de grandes villes, pour des déplacements, on va dire, de jusqu'à 5 km. Après, ça dépend de la taille de vos mollets, de votre énergie. Vous pouvez faire un peu plus. Et puis, il y a le vélo électrique, maintenant, qui permet d'allonger la portée. Donc ça, c'est la première fois. Alors, j'ai entendu dire, effectivement, les grincheux qui disent, c'est pas assez. Mais c'est pas la responsabilité de l'État de faire des pistes cyclables. Je veux dire, la métropole de Lyon, beaucoup de villes, Strasbourg, n'ont pas attendu d'avoir des... Et c'est pas toujours un problème de budget, c'est aussi un problème. Faire une piste cyclable dans une ville, je peux vous dire que c'est compliqué. Parce que l'espace public en France, il est limité. Donc quand vous faites une piste cyclable, vous prenez une voie, soit au stationnement, donc vous avez les commerçants, les riverains qui sont contre, etc.
On voit que l'espace public est disputé aujourd'hui entre les trottinettes, les vélos, les voitures.
C'est beaucoup de concertation. Donc il y a certes peut-être des problèmes budgétaires, mais l'État donne un coup de pouce, mais c'est quand même le travail des agglos, quoi. Excusez-moi de le dire, c'est pas le boulot de l'État, normalement.
C'est plus aux agglomérations qu'à l'État de financer ces infrastructures, Imane Mirawi.
Alors, déjà, je souhaiterais réagir parce que je pense pas qu'on soit très grincheux à France Nature Environnement.
Non, c'est pas vous que je disais.
Mais nous, on n'est pas satisfait justement de l'enveloppe dédiée au fonds vélo. Effectivement, c'est une première. Maintenant, ça reste une loi d'orientation des mobilités et cette loi a vocation aussi à envoyer des signaux. La dernière loi qu'on a eue en France qui traitait de la question des transports, c'était il y a 40 ans. Donc, si on doit attendre encore 40 ans pour envoyer un autre signal en disant, en fait, tous les trajets de 2,5, 3, 4 km devraient se faire normalement plus logiquement, notamment dans les grandes villes à vélo, je pense qu'il va y avoir un vrai problème à très court terme. Et sur la question, aujourd'hui c'est les AOM qui doivent gérer notamment les communes. Il y a la loi LOR, les autorités organisatrices de la mobilité, donc aujourd'hui qui est un peu redéfinie dans le cadre de la LOM, les interco et les régions. Il y a les communes depuis la LOR qui sont censées à chaque fois qu'elles refont une partie de leur réseau routier créer des pistes cyclables. Elles l'ont pas fait, donc pour le coup du contrôle de l'État sur cette obligation faite aux communes de rénover et de prévoir des pistes cyclables sur leur route. Et deuxième chose, quid aussi des ressources des communes, des régions aujourd'hui qui se voient transférer ces compétences, puisque on a vu ces 20-30 dernières années avec la décentralisation, ces collectivités agglomérer de plus en plus de compétences, avec pas forcément derrière les recettes pour justement toutes les assumer. Notamment, on est assez vigilant sur la question des régions pour les qui deviennent aussi aujourd'hui chefs de file en matière de transport, qui ont aucune capacité fiscale, etc. Nous, on estime qu'il est d'abord nécessaire de faire un point aussi sur les exonérations fiscales dont bénéficient certains modes, notamment la mise en place, parce que ce gouvernement aussi a supprimé la possibilité pour les régions de mettre en place une redevance kilométrique pour les poids lourds, qui sont quand même cette question. Aussi ouais. Une manne financière pour les régions pour justement développer du transport en commun, rénover le réseau ferroviaire, etc.
Toute la question, c'est effectivement qui doit payer et comment on va utiliser cet argent, en l'occurrence afin de désenclaver les villes moyennes et les territoires ruraux. La loi mobilité prévoit de consacrer 1 milliard d'euros aux autoroutes. Comment est-ce que cette proposition est justifiée, Frédéric Errand, et est-ce que cela ne risque pas de créer un appel d'air, ce que les géographes appellent un trafic induit? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Que les économistes appellent le trafic induit. Oui. Eh bien, il faut savoir que quand on crée une nouvelle infrastructure, on répond, effectivement, on essaye de la créer, de la dimensionner pour répondre à une demande. On fait tourner des modèles de trafic qui essayent de dimensionner correctement cette infrastructure et on s'aperçoit toujours que le modèle échoue à tout prévoir. Ça ne veut pas dire que le modèle est faux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de modèle, mais ça veut dire qu'il n'épuise pas la compréhension de la question. Et en fait, il y a toujours un peu plus de trafic que prévu, 10% à court terme, 20% à long terme, pour faire très simple, mais il y a des grandes fluctuations selon les infrastructures. Et ce trafic induit prouve que quand on cherche à réduire les bouchons en augmentant la capacité routière, eh bien en fait, on ne fait que, comme on l'a dit au début, inciter les gens à toujours aller plus loin. Et à cause de cela, on crée du trafic induit. Et donc, c'est-à-dire, en clair, les gens en profitent pour habiter plus loin, pour travailler plus loin, pour aller dans un hypermarché plus loin, etc. Ça interroge quand même énormément, parce que ça veut dire que toutes ces infrastructures ne servent pas à améliorer réellement la mobilité, mais à créer toujours et encore un peu plus de trafic. Donc, les 1 milliard pour les autoroutes, je pense que ce n'est pas justifié.
Jean-Claude Defilm.
Alors moi, j'aurais pas une position de principe sur le sujet. Ce que dit Frédéric Errand est tout à fait juste. C'est vrai aussi pour toutes les infrastructures de transport. Vous prenez le cas de la Suisse, qui a développé de manière incroyable son système ferroviaire, une augmentation de 50% des gens qui habitent à plus de 100 km de leur lieu de travail liée à cette augmentation. Donc il y a une induction de trafic qui est liée par tout nouveau service. C'est pareil pour les trottinettes, pour les vélos, ce que vous voulez.
Donc est-ce qu'il fallait consacrer un milliard d'euros
si vous voulez, on isole une mesure sans regarder dans le détail. On regarde pas ce qui est fait par ailleurs. Il y a beaucoup d'argent qui est mis sur les nœuds urbains, ferroviaires. On a besoin de périphériques. Excusez-moi de le dire. Je veux dire, les périphériques, ça sert à quoi? Ça sert à protéger une ville-centre du trafic de transit. Donc, on peut pas supprimer les périphériques dans les agglomérations, parce qu'avec ce raisonnement-là, je le pousse jusqu'au bout.
Il y a les supprimer, il y a...
Je supprime les périphériques. Qu'est-ce qui va se passer si on supprime les périphériques? Si j'ai pas d'alternative adéquate, c'est une congestion XXL dans toutes les rues de centrales avec une pollution XXL. Donc, certaines infrastructures, je dis pas toutes, hein, ça c'est vrai, certaines infrastructures routières sont utiles et justifiées.
Nous là-dessus c'est pareil, on est assez déçus par justement les choix de financement des infrastructures faits par ce gouvernement, puisque la loi d'orientation des mobilités avait, ou était supposée en tout cas, revoir un peu le paradigme qu'on avait nos politiques de transport et de peut-être freiner, si ce n'est inversé, la priorité faite au tout routier. Alors effectivement, il y a des besoins d'infrastructures nouvelles, la démographie évolue, les territoires aussi.
Il y a surtout besoin de rénovation, en l'occurrence.
Mais le problème, justement, c'est qu'on va plutôt toujours prioriser la création de nouvelles infrastructures plutôt que se poser la question de savoir s'il ne serait pas plus pertinent de moderniser, d'agrandir, de revoir certains types d'infrastructures.
Donc, 17% des 12 000 km de chaussées entretenues par l'État seraient en très mauvais état.
Exactement. Ça. Et donc, du coup, on assiste à une pluralité de grands projets inutiles, des Castres-Toulouse, des contournements d'Arles-Sud, alors que il y a les acteurs locaux, notamment dans le cadre des consultations publiques, démontrent qu'il y a des alternatives d'agrandissement de réseaux routiers secondaires existants, etc. Mais on a des grands élus, on a un gouvernement qui veut continuer à soutenir la construction de nouvelles infrastructures.
Et alors justement, cette question, qui devrait payer à la fois pour l'entretien et pour la rénovation de ces routes, voire la création de nouvelles infrastructures. La question se pose de faire contribuer les poids lourds. La question continue de se poser, Frédéric Errand, même si elle est évidemment très sensible. On se souvient des bonnets rouges et après la crise des gilets jaunes, on imagine que le gouvernement ne souhaite pas se lancer dans ce type de mesures.
Oui, Bon, cela dit, moi, j'aimerais revenir, mais sur ce qui a été dit un peu avant, je serais pas tout à fait d'accord avec Monsieur Coldefy. Je pense qu'à un moment, il va falloir effectivement réduire le trafic auto, c'est-à-dire pas seulement le reporter en périphérie. Les voies de contournement du centre, comme on disait, ou de protection du centre, je crois que aujourd'hui, ce n'est plus possible. Pourquoi faut-il vraiment réduire le trafic auto et pas seulement le rejeter ailleurs? C'est parce que la voiture pose problème. Et ce diagnostic n'est jamais fait. On nous dit jamais pourquoi la voiture pose problème. Alors, bien sûr, il y a une question de pollution, mais de consommation d'espace, là, Jean l'a bien dit, mais également de bruit, d'artificialisation des sols, de pollution des eaux et des terres. Enfin, il y a énormément d'aspects, et en plus, toutes ces nuisances font système. C'est-à-dire qu'elles font fuir les gens en périphérie pour échapper au trafic auto. Donc il y a plein de cercles vicieux qui s'instaurent à cause de ça et qui se renforcent.
Bon. Et l'État a refusé d'inscrire dans la loi le fait de sortir de la voiture thermique d'ici à 2040 en l'occurrence.
Pardon, excusez-moi.
L'État n'a pas inscrit finalement dans la loi. C'était une proposition de Nicolas Hulot, le fait de sortir de la voiture de la voiture thermique.
Oui, non, mais restons-en à cette question de nuisance. Donc, il faut réduire la voiture, non pas parce que c'est un épouvantail ou que sais-je, c'est parce qu'il y a pour des raisons objectives qu'il faut expliquer, qu'on n'explique pas assez. Et une fois qu'on a, enfin, si on arrive à se mettre d'accord avec ce diagnostic, qui est loin d'être mis sur la table, eh bien, il faut essayer de réduire effectivement le trafic automobile. Et donc, toute augmentation, hélas, de capacité routière induit du trafic, qu'on le veuille ou non. Et donc, déplacer le trafic, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Il faut un jour s'attaquer vraiment, y compris aux rocades.
Jean-Claude Dauphine.
Oui, mais moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je vais expliquer. Donc, je pense que ça dépend complètement des territoires. Si vous voulez, en zone rurale, la voiture, c'est pas un problème, c'est une solution. Il faut quand même le dire. Il faut s'intéresser à ceux qui ne peuvent pas conduire ou plus conduire. Donc, c'est ce qu'on appelle le transport à la demande. La loi d'orientation des mobilités prévoit d'ailleurs là-dessus un article, l'article 14, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui permettrait vraiment d'avoir des innovations très intéressantes qui permettraient de faire baisser les coûts publics de ce type de transport et donc multiplier potentiellement par 5 l'offre pour ces territoires-là. Et il y a les agglomérations, les grandes agglomérations, où là, il faut agir, je le répète, il faut offrir d'abord des alternatives. On ne peut pas supprimer les rocades sans avoir des alternatives, c'est juste insupportable pour ceux qui n'ont pas le choix, parce que on explose leurs conditions de vie. Mais par contre, une fois qu'on a créé l'alternative, là, il faut mettre de la contrainte. Je suis complètement d'accord, parce que l'effet d'induction, il est vrai, il est réel. Donc, je disais, il faut plus de transports en commun. Je pense qu'il faudra 10 ans pour que les trains se réforment dans ce pays, parce que la SNCF freine des cas de fer pour l'ouverture à la concurrence en refusant de communiquer les données. Donc, il y a des procès en cours entre les régions et la SNCF. La solution assez rapide, à mon avis, c'est de mettre en place des cars express sur des pénétrantes pour rentrer dans les agglomérations avec des voies réservées. Donc là, vous mettez en place une alternative et vous prenez une voie à l'autoroute. Donc vous avez à la fois la solution et la contrainte. Et les gens veulent du temps de parcours. C'est ça qu'il faut comprendre.
Okay. Qu'est-ce que ça signifie, vouloir du temps de parcours?
Les gens veulent pas passer 2 heures par jour dans les transports. Donc si vous leur offrez une solution où ils gagnent une demi-heure à 40 minutes par jour, ils la prendront. C'est pour ça que les primes, ces histoires d'argent ou de gratuité, ça ne sert à rien. Parce que si vous voulez, c'est le temps de transport qui est l'essentiel.
Mais il y a aussi cette question des poids lourds sur laquelle je reviens. Imen Mirawi, cette question d'une taxe sur les poids lourds. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle a peu de chances de voir le jour.
Et pourtant, elle est fondamentale parce qu'on le voit depuis des années, le nombre de camions qui circulent sur nos routes ne cesse de croître, avec tous les problèmes de sécurité routière, bien sûr, mais aussi en termes de questions de climat. On a à peu près 21-22% je crois de camions en termes de représentation sur le trafic routier qui génèrent jusqu'à 43% des émissions de gaz à effet de serre et de polluants dont les dioxydes d'azote pour lesquels la France est depuis 10 ans en procès contre la Cour de justice de l'Union européenne pour dépassement des seuils autorisés. On n'a pas le choix. On peut continuer de faire croire que... alors, c'est l'argument de... le secteur des transports est fragile. On l'entend, effectivement. Le secteur des transports...
Les difficultés économiques qui sont réelles.
Réelles, mais en quoi ça serait à l'écologie d'être la variable d'ajustement d'un système économique qui est plutôt lié aux politiques libérales de dérégularisation et de concurrence déloyale menées dans l'Union européenne depuis des années?
Jean-Claude Dauphine.
Je pense que incriminer l'Union européenne, c'est vraiment un mauvais procès, surtout dans la période actuelle. Je pense qu'au contraire, C'est l'Union européenne qui a aussi favorisé la mise en place de la concurrence ferroviaire. Je rappelle que le fret ferroviaire a augmenté de 20% en Allemagne, pendant que nous, il a explosé à la baisse, lié au coût et à la désorganisation de la SNCF. Et si c'est stabiliser la part du fret ferroviaire par rapport au fret routier, c'est grâce à la concurrence qui a été introduite beaucoup plus tôt. Ce sont les opérateurs privés qui ont redressé la barre et pas la SNCF.
Oui. Voilà, et donc on pourrait dire.
Il faut quand même le dire. Je reviens quand même sur cette histoire de financement. On a eu quand même l'épisode de l'écotaxe. Si vous voulez, c'est toujours la faute des autres, mais c'est quand même des choix collectifs qu'on a fait. Hein. Quand l'écotaxe a été supprimée, il n'y a pas eu des manifestations dans la rue pour dire que c'était dommage. C'était la plus grosse erreur qui ait jamais été faite, en plus tristement par une ministre de l'écologie, sur le sujet, parce qu'effectivement, ça a apporté quand même une manne financière. C'était un fonds qui était dédié aux infrastructures de transport alternatives à la voiture. Et donc ça, c'était une erreur, vraiment l'erreur du siècle, je pense, dans le financement de la mobilité.
Frédéric Héron.
Oui, quel que soit ce qu'on pense du bien ou du mal de ce qui est privé ou public, on est obligé de constater aussi dans le transport de voyageurs qu'en Allemagne, par exemple, depuis que c'est ouvert à la concurrence, depuis 96 par là, ils ont rouvert 500 km de petites lignes, quand même, quoi. Alors que nous, on en a supprimé des centaines dans le même temps, quoi. Mmh. Donc il faudra bien reconnaître un jour que la SNCF a du mal, n'arrive pas à gérer de façon efficace des petites lignes. Par exemple, ils ne savent pas travailler avec un seul agent, ils comprennent pas qu'il faut pouvoir payer son billet dans le TER lui-même, hein, choses comme ça aussi.
Mais vous y croyez au développement du train pour les déplacements domestiques, vraiment?
Alors on a un très bon exemple, c'est la Corse, où le chemin de fer Corse a été privatisé il n'y a pas longtemps et connaît un succès formidable. Bon, donc c'est tout à fait possible en France, et on y arrivera, mais simplement c'est vrai que qu'on est dans des postures idéologiques en ce moment qui sont bien dommages.
Ouais. Imen Amiraoui, peut-être sur à la fois la nécessité de favoriser le fret ferroviaire d'un côté et les déplacements domestiques par le train.
Oui, sur le fret ferroviaire, on le voit, hein, la part du transport de marchandises par train a complètement chuté ces dernières années. On est, je crois, à 7-8% du transport de marchandises qui se fait aujourd'hui par train contre 20%, ce qui était déjà pas énorme dans les années 90. Donc, encore une fois, on parle de loi d'orientation des mobilités. Il y a des signaux à envoyer. Qu'est-ce qu'on veut demain en termes de système de transport en France? Est-ce qu'on veut développer le fret lorsque c'est intéressant et que c'est pertinent? Oui, pour les derniers kilomètres, on peut pas amener un gros train en plein milieu du centre-ville. C'est évident. Maintenant, pour des grandes distances, etc., je pense que c'est quand même mieux que ce soit des trains qui acheminent les marchandises vers les grands centres de dépôt et plutôt favoriser des petites flottes avec des énergies renouvelables pour le centre-ville ou les courtes distances. Mais c'est pas du tout traité par ce texte.
Ouais. Jean Coldefine.
Ouais, moi je partage pas là-dessus. Je pense que vraiment la LOM, c'est une grande avancée. Ce gouvernement, cette ministre a vraiment fait le job et on peut remercier ses équipes. Et ils l'ont fait en concertation. Ils l'ont fait en concertation avec l'ensemble des acteurs. Ils ne se sont pas simplifié la tâche et je crois qu'il faut quand même le souligner, c'est quand même très important. L'ouverture, la réforme ferroviaire, si vous voulez, l'ouverture à la concurrence, que disait Frédéric Arrand, est tout à fait juste. Je vais l'illustrer par deux chiffres. La subvention par train kilomètre de voyageurs en France est 17 euros pour les TER, c'est 8,5 en Allemagne. Donc, effectivement, on peut lever des nouvelles taxes, on peut aussi faire des économies. Un conducteur de TER conduit 350 heures par an en France, 1000 en Allemagne. Donc, si vous voulez, voilà.
Donc, pour vous, l'ouverture à la concurrence n'aura que des effets bénéfiques.
Et je terminerai. Cette ministre a vraiment la volonté de réintroduire une vignette poids lourd.
Oui.
Et elle a toute la profession contre elle. Oui. Donc, les choses ne sont pas si simples.
Elle apparaît pas dans ce texte.
Oui, parce qu'elle fait de la concertation. Elle fait de la concertation. Et vous savez très bien qu'en ce moment.
Ça fait 40 ans qu'on l'amène sur le sujet. Écoutez, donc on n'en est plus au niveau de la concertation.
Je vous invite à prendre le poste de ministre des Transports, vous verrez que c'est pas si simple.
Non, mais j'ai rien contre Elisabeth Borne, elle nous a rencontré à plusieurs reprises, ça s'est toujours bien passé. Je pense que les verrous se font plutôt à Bercy au niveau de Matignon, mais encore une fois, oui, il y a eu la concertation et du travail, mais il y a encore une fois l'urgence climatique. C'est pas dans 60 ans qu'il faut agir, c'est maintenant. On a une loi tous les 40 ans sur la question des transports, c'est maintenant qu'on doit décider de ce qu'on veut essayer de faire en concertation. On ne veut pas une redevance kilométrique en 2020. On veut que le principe de la possibilité, notamment pour les régions qui souhaitent les mettre en place, soit réintroduite.
Il y a une autre mesure qui est proposée, l'un des projets de cette loi mobilité, c'est de décentraliser la gouvernance et de donner une plus grande marge de manœuvre aux collectivités territoriales. Quel est le but de cette mesure, Frédéric Héron? Est-ce que ça vous paraît une mesure positive?
Oui, sûrement. C'est-à-dire que... Sûrement, mais il faut bien comprendre qu'il y a un problème d'apprentissage. Les collectivités locales, elles ont aussi, elles vont pas être forcément performantes tout de suite si on leur donne les clés de cette mobilité. Il y a des régions qui sont bien plus en avance que d'autres, par exemple dans la gestion des TER. Donc il faut leur laisser le temps de s'approprier les outils, et puis il faut les aider. Il faut que la SNCF effectivement donne ses chiffres, par exemple, enfin, qu'il y ait plus de transparence. Bon, donc oui, moi je serais assez d'accord pour dire que la LOM va effectivement dans le bon sens, mais il reste énormément de détails à travailler.
Il y a une dernière proposition dont j'aimerais parler, on arrive au terme de cette émission, c'est le développement des zones à faible émission, les ZFE, qui interdisent les véhicules les plus polluants, donc dans certaines zones. La loi mobilité autorise toutes les villes de plus de 100 000 habitants à mettre en place ce dispositif. C'est une mesure qui va dans le bon sens, Imen Mirawi?
Oui, je crois que le Sénat a revu à la baisse le seuil des villes qui peuvent l'expérimenter. Il y a par contre une disposition donc, qui nous gêne un peu dans le texte, qui prévoit en fait une sorte d'étude pour à court terme ou à plus moyen terme réserver ces zones à des véhicules à zéro émission à l'échappement, ce qui veut dire juste aujourd'hui autoriser simplement les véhicules électriques. Et là-dessus, on est assez vigilant parce que l'électrique, on a tendance à le survendre comme le modèle de véhicule très durable, très propre. Quand on raisonne en analyse de cycle de vie aujourd'hui, l'électrique, on parle de batterie, quand on parle d'extraction de matériaux rares dont on a besoin pour construire ces véhicules,
c'est plus polluant,
l'empreinte carbone explose. Oui, oui. Donc il y a peut-être d'autres énergies. On est plutôt sur le développement du GNV, du bio-GNV, notamment le gaz naturel notamment d'origine renouvelable. On a jusqu'à, je crois, 80% de moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'un véhicule essence, 13% de moins de particules fines. Et du coup, ces véhicules-là, qui sont pourtant plus propres, ne sont pas du tout aujourd'hui soutenus par ce gouvernement. C'est dommage.
Un dernier mot, peut-être, Jean Coldefy, sur l'esprit général de cette loi, les limites, peut-être, que vous y voyez.
Oui, alors, je pense qu'un des points, c'est une loi qui est très technique, mais qui va lever plein de verrous pour permettre aux autorités locales de progresser. Sur la gouvernance, je pense qu'il y a un point qui est fondamental. Tout le monde pointe le rôle des régions, qui ne sera pas chef de file, d'ailleurs. C'est que cette loi va obliger, par son article 4, régions et agglomérations à coopérer ensemble. Et ça, c'est très important parce qu'on voit bien par rapport à la crise des gilets jaunes, ça va obliger ces deux entités à bâtir des contrats, ce qu'on appelle des contrats opérationnels de mobilité, et à se mettre d'accord pour construire ces fameuses alternatives entre les périphéries et les zones d'emploi qui sont situées dans les agglomérations. C'est un énorme progrès.
Et un dernier mot peut-être aussi sur ces péages urbains qui ont finalement été abandonnés, Frédéric Héron, alors qu'ils auraient pu constituer peut-être une importante source de financement complémentaire.
Oui, tous les économistes sont pour les péages urbains, mais en même temps, je voudrais mettre un petit bémol, il faut savoir aussi que la modération de la circulation automobile est aussi d'une grande efficacité. Je prends le cas de Paris. En 25 ans, Paris a réduit son trafic automobile de 45%. En un peu moins de temps quand même, en 20 ans, un peu moins, en 15 ans, disons, Londres a réduit son trafic automobile avec son péage urbain de seulement 15%. Ce qui est c'est pas si efficace, quoi.
Pose des questions.
Donc, en fait, les deux sont à associer, ce serait l'idéal.
C'est la fin de cette discussion. Un grand merci à tous les trois d'y avoir participé. Frédéric Héron, Imen Mirawi et Jean Coldefy. Frédéric Héron, je renvoie les auditeurs à votre ouvrage paru il y a quelques années, À la découverte, le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050. Et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, les institutions, les changements institutionnels et l'efficacité économique de Douglas North, un essai paru en 1990 aux États-Unis. Et c'est Yannick Pérez qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à Centrale Supélec et maître de conférences en sciences économiques à l'Université Paris Sud. Alors tout au long de sa carrière, Douglas North va chercher à répondre à cette question. Pourquoi certains pays réussissent-ils à s'enrichir et pourquoi d'autres n'y parviennent-ils pas? Pour cela, il va repenser le rôle joué par les institutions. Comment Douglas North définit-il les institutions? Pour commencer, Yannick Pérez.
Alors, Douglas North définit les institutions comme étant les règles du jeu. Alors ces règles du jeu sont soit formelles, soit informelles. Donc elles sont explicites, écrites dans des textes de loi, dans des codicilles, dans le code civil, dans la common law. Donc il y a des choses très explicites. Et aussi des institutions qui sont dites informelles et qui donc sont des coutumes, des règles du jeu ou des objets comme des croyances ou des religions. Qui constitue donc le cœur des règles informelles.
Et alors l'originalité de Douglas North par rapport aux autres membres de la nouvelle économie institutionnelle qu'il va contribuer à créer, c'est peut-être qu'il distingue les règles du jeu et ceux qui jouent le jeu, c'est-à-dire les institutions et les organisations.
Oui, en fait, la meilleure analogie qu'on puisse faire, c'est avec le sport. Si on regarde un match de football, eh bien, on voit bien qu'il y a tout un ensemble de règles formelles et informelles. Dans les règles formelles, il faut essayer de gagner. Dans les règles informelles, il y a tout un ensemble de choses que l'on peut faire pour gagner, qui sont licites, que l'arbitre autorise. Et puis, il y a tout un ensemble de choses qui sont à la limite du licite, mais que l'arbitre parfois tolère, accepte ou n'accepte pas. Et quand il n'accepte pas, eh bien, il joue le rôle d'un tiers qui vient garantir que les règles du jeu soient respectées. Ensuite, les organisations sont les joueurs. Donc, ces joueurs peuvent investir, s'entraîner plus, s'entraîner moins, acheter des compétences, des nouveaux joueurs, ou militer pour un changement des règles du jeu et dire cette compétition serait plus attractive si on en venait à la fermer, de ne plus avoir que quelques clubs qui jouent et les meilleurs si possible. Ou au contraire, d'avoir des règles plus ouvertes en disant non, on pourrait avoir des représentants de chacun des pays, comme ça, ça permettrait une plus grande ouverture.
Peut-être qu'on peut expliquer en quelques mots, Yannick Pérez, qui est Douglas North, sa vie, son parcours intellectuel. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est qu'il a d'abord été marxiste, assez proche des théories néoclassiques, et puis ensuite il va évoluer.
Alors, ce qui est intéressant quand on parle de North, c'est qu'on parle de quelqu'un qui a réfléchi grosso modo des années 50, quand il a commencé à devenir professeur, jusque, on va dire qu'il a arrêté une activité intellectuelle intense en 2010. Donc, ça fait une carrière qui s'étire sur 60 ans. L'origine de sa motivation, c'est effectivement dans les années 40 d'être influencé par le marxisme aux États-Unis et de dire je suis plutôt pour un partage des richesses, je suis plutôt pour une société plus équilibrée, plus juste. On est dans les années 40 aux États-Unis, ça peut faire sens. Et à ce moment-là, il est pacifique. Donc il se retrouve dans une situation bizarre en 41 quand l'Union soviétique rentre en guerre. Et du coup, il est le seul pacifiste. Alors, il se dit, il faut que j'ajuste les croyances que j'ai par rapport à ce que je constate. Mais il reste pacifiste. Donc, il s'engage dans l'armée, mais pas dans l'armée militaire, dans la marine marchande.
En tant que photographe de guerre, ce qu'il voudra être plus tard, mais son père lui dira, ce n'est pas très sérieux, soit plutôt économiste.
Disons qu'il y a un vaste débat dans sa tête entre être photographe ou être économiste. Et donc, son papa a milité pour qu'il soit économiste, parce que c'est un petit peu plus sérieux. Tandis que North a toujours gardé tout au long de sa vie une inclinaison pour la photo. Même après son prix Nobel, il a continué à faire des photos et à les montrer à ses amis.
Prix Nobel qu'il obtiendra en 93. Mais il y a une étape importante dans son parcours sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, Yannick Pérez. Douglas North a été l'un des fondateurs de la cliométrie, du nom de la muse de l'histoire, Clio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle approche et quel a été son apport ?
Alors, au début de sa carrière, North s'intéresse à l'histoire économique. Il reconnaît lui-même ne pas être un très très grand théoricien au sens de fabricant de théories économiques. Mais ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment les économies évoluent, comment certaines sont riches, comment certaines sont pauvres, pourquoi certaines ont réussi cette transformation qu'il aimerait voir se répéter partout. Et une manière pour lui de comprendre ça, c'est de regarder l'histoire, de regarder les faits économiques, et de se dire, bon, dans ces faits, beaucoup de théories s'affrontent pour savoir quel est le moteur qui a déclenché cette croissance économique. Et lui pense qu'une bonne manière de savoir quel est le vrai moteur ou quelle est la vraie cause de la croissance économique, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est le capital, est-ce que c'est le progrès technique ou est-ce que c'est la qualité des institutions ? Évidemment, il milite pour la qualité des institutions. Mais l'idée pour lui, c'est d'essayer de mesurer l'impact de chacun de ces phénomènes, si possible avec des chiffres, avec des données. Il est influencé par ça, par Simon Kuznets, qui essaye de montrer l'histoire économique sur le long terme et d'essayer de savoir qui détermine quoi. Et dans la cliométrie, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser toutes les techniques de l'époque, les nouvelles techniques mathématiques, et de les appliquer à l'histoire pour essayer de savoir qu'est-ce qui détermine quoi. Et qu'est-ce qui détermine quoi dans la croissance économique des États-Unis d'abord, jusque dans les années 80, et ensuite, quand il voudra appliquer ces mêmes théories à l'Europe, il se rendra compte que, manque de chance, les institutions américaines ne sont pas les institutions européennes, et que donc il va falloir qu'il fasse une révolution copernicienne en se disant, manque de chance, la théorie néoclassique est très pratique quand les institutions sont de bonne qualité et qu'elles préservent effectivement le marché. Mais si on est dans d'autres environnements institutionnels, il va falloir rompre avec la théorie néoclassique. Dans la théorie néoclassique, on part du principe qu'il n'y a pas de problème. Donc, comme il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine d'étudier le problème qui n'existe pas. Par définition, on a décidé que l'agent était rationnel, on a décidé qu'il avait toutes les informations, que donc tout ce qui permet d'améliorer l'information ou d'améliorer la rationalité n'a pas vraiment besoin d'être étudié, puisqu'on a éliminé le problème ex ante en posant le fait que mathématiquement, c'était plus simple de ne pas les avoir.
Alors, ce que dit Nougat North, c'est qu'il y a justement beaucoup d'incertitudes et que les institutions sont là pour réduire cette incertitude.
Absolument. Donc, dans un premier temps, North est très néoclassique et pense que les institutions sont là pour être efficaces, pour réduire l'incertitude et efficaces dans l'objectif qu'elles se sont assignées. Et que donc, du coup, les institutions sont efficaces et elles vont générer de l'efficacité économique. Ça marche assez bien si on se restreint aux États-Unis, puissance dominante de l'époque. Ça marche un peu moins bien si on fait la même étude en historique de l'Europe, où on se dit l'Espagne qui dominait le XIVe siècle a disparu de l'échiquier mondial. Ah mince, les institutions sont pas forcément synonymes d'efficacité. Elles ont été créées dans un but, mais ce but n'est pas forcément l'efficacité économique. Ça peut être le partage de rente, la conservation de rente. Ça peut être des choses qui sont en fait très inefficaces.
Et alors justement, quel est le rôle de l'État, Yannick Pérez, dans l'élaboration et la mise en œuvre des institutions, selon Douglas North ?
Alors, il y a un rôle complexe qui est attribué à l'État parce que il est lui-même le fruit d'une production institutionnelle, d'un environnement institutionnel. Donc, il peut agir sur les règles, il peut agir sur les normes, il peut agir sur les institutions formelles, sur l'organisation de la société. Est-ce que je crée un Parlement ? Est-ce que ce Parlement a le droit de proposer des initiatives venant de lois des citoyens ? Est-ce que j'autorise ou j'interdis des formes de communication ou de proposition de textes de loi ? Ça, c'est dans l'univers des décisions politiques que le gouvernement peut prendre. Mais à côté de ça, il y a des institutions informelles sur lesquelles le gouvernement a assez peu d'action ou assez peu de marge de manœuvre. Ce que les gens croient, ce en quoi ils ont envie de faire des choses ou la manière dont ils évaluent les activités économiques, ça ressort d'un univers qui est différent de celui de l'action de l'État.
Et c'est pour ça que, selon North, il est si difficile de transposer un modèle économique ou politique d'un pays à un autre.
Voilà, parce qu'il faut que les institutions formelles s'adaptent aux institutions formelles. Et donc, du coup, si les gens n'ont pas confiance dans un régulateur, si vous créez un régulateur en disant c'est lui qui va gérer l'ensemble des règles économiques, mais que tout le monde dit oui, mais d'où vient ce régulateur ? Qui est-il ? Que fait-il ? Nous, on n'aime pas trop ça. On préfère quand c'est décidé de manière plus collégiale. Et là, c'est un seul homme qui prend la décision. Pourquoi cet homme prendrait la décision ?
Quel exemple est-ce qu'il mobilise, Yannick Pérez ?
Alors, dans son œuvre, North utilise successivement un grand nombre d'exemples, puisque ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de résoudre des problèmes concrets. Donc,
pour expliquer peut-être précisément cette difficulté d'une transposition d'un pays à un autre.
Alors, les difficultés de transposition ou le copier-coller institutionnel, North montre que, sur plusieurs exemples, que ce qui fonctionne dans un pays s'explique parce qu'il y a une dynamique à la fois interne et externe, un chemin de dépendance qui fait que dans un pays ça fonctionne et que dans un autre ça ne fonctionnera pas.
Mais dans quel pays par exemple ça fonctionne ?
Alors, de tête, je vous dirais bien que la première étude qu'il a faite concerne les foires au Moyen-Âge et l'ensemble de l'organisation concernant les poids, les mesures, la défense des règles, la garantie des transactions et de dire qu'en Europe, on a été capable de faire cette sécurisation des transactions sur la base des foires, qui ensuite ont essaimé et ont permis un certain développement économique, mais que ce modèle d'échange, de construction institutionnelle, quand on essaie de le transposer dans d'autres pays, en Afrique par exemple, ou en Amérique latine, bah, ça fonctionne pas de la même manière parce que les gens ne croient pas aux mêmes dispositifs, aux mêmes garanties, et que même si on a l'impression que les règles du jeu sont les mêmes, les joueurs ne sont pas les mêmes, et que du coup, ça donne des résultats très différents, et souvent inefficaces.
Et c'est aussi comme cela qu'il explique l'origine de la révolution industrielle en Angleterre, en expliquant que c'est grâce au droit de propriété que l'économie a pu se développer. Et donc il y a ces situations où les institutions sont efficaces, et puis il y en a d'autres où les situations sont moins efficaces. Comment explique-t-il l'inefficacité de ces institutions, sachant qu'on a le sentiment, avec Douglas North, que les périodes d'inefficacité sont finalement plutôt la norme, et les périodes de croissance durable plutôt l'exception?
Tout à fait. Dans l'hypothèse northienne, on va dire, l'institution, elle est créée par des individus qui ont un objectif commun. Mais cet objectif peut être l'efficacité, parfait, ou l'inefficacité, et la protection, et l'organisation de demandes de protection qui sont adressées au gouvernement en disant « bah non, vous voyez, la concurrence, c'est pas très bien » ou « non, empêcher l'ouverture concurrentielle de tel ou tel secteur, on a besoin de protection ». Alors, de protection durable ou de choses qui sont très inefficaces dans le très long terme. Tout ce qui va concerner les innovations, le développement de nouvelles pratiques peut être interdit culturellement ou par décision légale dans un environnement institutionnel où l'État se laisserait influencer par des groupes de pression interne qui viseraient à limiter l'introduction de certains nombres d'innovations qui auraient pour conséquence de redistribuer des ressources d'une manière qui ne favorise pas les élites en place, pour le dire simplement.
Et alors, quel lien fait-il, Yannick Pérez, entre institution et idéologie? Et quel impact est-ce que cela a sur sa pensée?
Alors, dans l'évolution de la pensée de North, on part vraiment d'un modèle néoclassique auquel, vers le milieu des années 80, North renonce en disant que on a un problème d'information et on a un problème de rationalité. Et donc, si on veut comprendre le changement institutionnel, il faut postuler que les gens ne sont pas rationnels. Et donc, s'ils sont pas rationnels, ça veut dire qu'ils se forgent des schémas mentaux dans lesquels les idéologies, les croyances vont venir perturber le calcul économique classique dans lequel on dit que ça n'existe pas. Mais si ça existe, alors, pour l'économiste, ça devient plus compliqué parce que comment résoudre une équation dans laquelle on dit « oui, mais la pondération sur le premier facteur ou sur le deuxième facteur est influencée par le fait que ma religion est A ou B ou que je crois en l'efficacité de ce que je vais faire ou je n'y crois pas ». Si j'y crois, alors je vais mettre en place un dispositif. Si j'y crois pas, je vais faire le même calcul, mais pour atteindre un résultat qui est « il vaut mieux ne pas faire ». Et donc, chez North, il y a l'idée qu'une fois qu'on a compris que les institutions étaient importantes, il faut comprendre comment les institutions se construisent, et les institutions se construisent par des individus qui ont des croyances partagées. Et donc, une fois qu'ils ont des croyances partagées, ils font un effort collectif pour essayer d'avoir une institution, et cette institution joue ensuite un rôle d'efficacité ou d'inefficacité dans le système global.
North a décrit son parcours intellectuel comme, je cite, « un long voyage certainement imprévisible du marxisme aux sciences cognitives ». Quel est aujourd'hui son héritage, Yannick Pérez?
Alors, l'héritage de North est compliqué à mesurer parce qu'il s'étend dans plein de dimensions différentes. Effectivement, il y a un apport en économie, avec des sociétés savantes qui se réclament de la contribution faite par Douglas North en compagnie de Coase et de Williamson, ce qu'on appelle la nouvelle économie institutionnelle. Mais il y a aussi des apports en sciences de gestion, en stratégie, il y a aussi des apports en économie politique, en sciences politiques. Et il y a aussi des gens qui regardent maintenant l'économie des institutions comme étant un lieu ou les institutions comme étant un lieu qui permet un brassage culturel entre les apports des sciences cognitives, de la philosophie, de la sociologie et de l'économie. Dans cet univers, c'est un peu compliqué pour un économiste de s'y retrouver, car on est très très loin des outils que l'on enseigne ou que l'on apprend traditionnellement. Et donc, il faut accepter de faire le même voyage que North, mais c'est généralement compliqué parce que ça lui a pris 50 ans, voire 60 ans, et que tout le monde n'a pas forcément 60 ans.
Un grand merci, Yannick Pérez, d'être venu dans nos studios aujourd'hui. On se quitte avec les Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. La semaine prochaine, Entendez-vous l'écho, passe le bac, série spéciale pour les bacheliers, mais aussi pour tous ceux qui veulent réviser leurs classiques. On fera le tour des grands sujets économiques, la croissance et l'environnement, les inégalités, les politiques de l'emploi et la mondialisation. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.